Ils sont mobilisés depuis 13 jours et ne comptent pas s'arrêter là.
Y a-t-il une piste de négociation donc pour sortir de l'enlisement ce matin ?
Une seule.
Se réinventer pour durer. Un mouvement de contestation clairsemé en quête de nouveaux modes d'action.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Ces mots naguère prononcés par l'ex-président Nicolas Sarkozy semblent aujourd'hui bien obsolètes. Et pourtant, se pose inévitablement la question de la sortie de grève et des résultats obtenus à son issue. Or, si les grévistes sont animés par le souvenir historique que ce sont les grèves qui ont permis d'obtenir ou de préserver de nombreux acquis sociaux, l'histoire récente tente à prouver que faire grève, même massivement, ça n'a pas toujours les résultats escomptés. La preuve en sont les mouvements contre la loi travail ou contre la précédente réforme des retraites en 2010. Bonjour Sylvain Boulouk.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des conflits sociaux, récemment auteur de Mensonges en gilet jaune aux éditions Serge Safran. Alors, est-ce que faire grève, ça marche ?
Ça dépend. On pourrait dire que dans les dernières décennies, les grèves ont toutes été perdues ou pratiquement, mais il y a effectivement un souvenir très très fort de ce qu'on a appelé pendant très longtemps des grèves victorieuses, à savoir que l'histoire de France jusqu'en 95 à peu près a été parsemée de combats pour les salariés qui sont transformés en victoires. Après, globalement, les dernières grèves depuis 2003 se sont toutes transformées en des échecs pour différentes raisons, que ce soit le taux de syndicalisation qui a baissé, que ce soit la volonté des gouvernants et les stratégies gouvernementales qui ont un peu changé, donc en séparant et en scindant l'ensemble de la population. Et puis, dans les formes de mobilisation, il y a des transformations qui font que les grèves sont aujourd'hui d'une part moins populaires et d'autre part moins nombreuses. Donc, du coup, l'impact immédiat d'une grève se fait moins sentir, ce qui explique aussi les défaites plus ou moins rapides.
Comment expliquer que dans l'imaginaire social, collectif, historique français, la grève soit symbole de triomphe, de victoire sociale, parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire des mouvements de grève contemporains, finalement, il y a assez peu de grèves qui sont liées à des gains d'acquis sociaux.
Il y a les deux plus grandes grèves de l'histoire de France qui sont liées à ces gains d'acquis sociaux, à savoir 1936 et 1968. Et là, on a des acquis sociaux énormes. Et deuxième chose qui est associée à ces deux grèves, c'est des images de fête. Dans un premier cas, en 1936, on a les images de la fête joyeuse de ces ouvriers en train de danser, qui marque une libération du travail. Et de la même manière, on a en 68, alors pas des images de fête, parce qu'on a plutôt l'image de cette ouvrière qui dit « je ne rentrerai jamais dans cette turne », parlant de son entreprise, mais en même temps, à côté de ça, on a toutes les images de la population qui discutait, qui parlait au Quartier Latin, d'une forme de grève joyeuse. Alors ça, c'est une réalité de la grève, c'est celle qui s'est imposée. En fait, quand on regarde un peu plus les grèves, souvent les grèves ont été tristes, ont été sanglantes pour l'histoire de France, ont été réprimées. Dernière petite chose, aujourd'hui, faire grève est de nouveau très compliqué. Vous travaillez dans le public, il y a un certain nombre de garanties sociales qui permettent l'exercice du droit de grève. Dans un certain nombre d'autres entreprises privées, notamment, un gréviste peut se retrouver licencié, pas immédiatement, mais quelques temps plus tard.
Pour revenir sur le dernier grand mouvement de grève qui s'est couronné de victoire, on dit, ou en tout cas la sociologie atteste, ce sont les grèves de 1995. Les grèves de 1995 sont des grèves contre un projet de réforme des retraites déjà. Qu'est-ce qui fait que 95 ça fonctionne et pourquoi est-ce que après, quelle que soit l'ampleur des mouvements de grève, ça ne fonctionne plus, Sylvain Boulouk?
95, et en fait, c'est une victoire défensive dans la mesure où le gouvernement propose un projet de loi qui est retiré par la suite. Donc on est dans une grève pour défendre un statut. Donc c'est pour cette raison que l'image de 95 demeure parce que c'est une victoire et que c'est la dernière grande victoire sociale ou un gouvernement reculé. Avant 95, il y a eu une autre grève où il y a un certain nombre de jeunes cheminots qui ont commencé leurs armes et de lutte sociale en 86, où il y a eu une grande grève des cheminots qui n'a pas abouti à grand-chose. Ils demandaient une augmentation de salaire, donc on était encore dans le cadre d'une grève offensive, et ils ont pratiquement rien obtenu. Mais ça a formé une génération au conflit social. Et en 95, ils savaient comment faire pour remporter à la fois la bataille de l'opinion et d'une manière plus globale, bloquer réellement l'appareil ferroviaire, l'appareil de transport en France. Depuis 95, cette génération a plus ou moins quitté le champ militant, elle a pu former de nouveaux jeunes militants, mais cette transformation s'est effectuée dans un rétrécissement global des effectifs, dans un recul du taux de syndicalisation, dans un dénigrement en arrière-fond que les hommes politiques qui appelle des privilèges pour ces professions un statut, dont, si on fait une parenthèse, le statut avait été garanti en 1945 et tous les statuts devaient être alignés sur le mieux-disant et pas le moins bien-disant. Et du coup, l'opinion globalement s'est retrouvée opposé à ce système de grève, ce qui fait que les grévistes ont eu beau essayer et tenter de faire grève, quand le gouvernement ne cède pas, il y a un moment où, après, c'est le gréviste qui est obligé de céder. À partir du moment où vous perdez votre salaire dans des professions qui ne sont pas privilégiées parce que ce sont des petits salaires, bah, au bout d'un mois, un mois et demi, dans certains cas, vous êtes obligé de rendre les armes ou reprendre le travail.
Mais ce qui a changé, Sylvain Boulouk, vous diriez que c'est effectivement le désinvestissement d'une culture syndicale ou c'est aussi une nouvelle génération de personnalités politique et de dirigeants qui n'est plus sensible à la menace que peut faire peser sur l'équilibre d'une société un mouvement de grève prolongé.
C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un renouvellement moins important des traditions syndicales et des traditions sociales dans le pays. Ça se voit au nombre de syndiqués. Et deuxièmement, il y a une culture de ces dirigeants qui ne s'intéresse plus réellement à la question sociale et qui néglige cette question sociale, voire qui considère pour certains entre eux, qui sont dans une optique à la Thatcher, en disant il y a des bastions de résistance qui peuvent être les métiers les plus fortement syndiqués. L'objectif est, à plus ou moins long terme, de transformer une société en une société complètement libérale et à partir de ce moment-là, de rompre les os à ces poches de résistance pour obtenir une société plus malléable et où les corporations seront moins importantes. Et finalement, on en revient à un paradoxe français, c'est la réapplication de la loi Le Chapelier de 1791. Alors, il n'y a pas d'interdiction des corporations, mais dans l'esprit du libéralisme tel qu'il avait été imposé par la Révolution française, enfin par la loi Le Chapelier dans la Révolution française.
Est-ce qu'aujourd'hui, une grève, même défensive, c'est une grève qui est vouée à l'échec ?
Pas forcément. Ça, on peut pas préjuger de ce qui va se passer. De toute manière, alors même si c'est pour l'instant qu'un recul et on ne sait pas ce qui va arriver, la centrale syndicale qui a obtenu le report de l'âge de retraite, elle l'a obtenu aussi et surtout parce que d'autres centrales syndicales étaient mobilisées. Paris n'aurait pas été paralysé. Il y aurait peut-être même pas eu de discussion sur cet âge de la retraite. Donc les effets se font sentir à long terme, peuvent être différés. Et puis il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un fort, très fort mécontentement social. Parce que cette culture sociale française, elle est quand même l'héritage du Front populaire, de la résistance et 68, et ça a marqué des générations, et dans la mémoire collective, attaquer tous ces acquis sociaux de génération en génération touche quand même l'imaginaire collectif de la société.
Est-ce que les gilets jaunes, c'est pas justement la manifestation que la grève telle qu'on la connaît, les défilés, les manifestations, c'est une forme obsolète de la lutte sociale et qu'aujourd'hui elle s'est transformée, elle a un nouveau visage?
Les gilets jaunes ont obtenu surtout suite aux manifestations violentes de la fin novembre, début décembre. Quand on regarde les chiffres de manifestants, on était à environ au plus fort des manifestations. Alors je prends que les chiffres de la préfecture, à un manifestant gilet jaune pour quatre manifestants syndicalistes dans les premiers cortèges du mois de décembre 2019. Donc il y a eu un rapport à la violence qui a fait que le pouvoir a donné un change plus rapidement. Pour d'autres raisons aussi, c'est que les gilets jaunes se réclamaient plutôt d'un modèle antifiscal, ce qui n'était pas en opposition complète avec les propositions néo-keynésiennes que font les centrales syndicales aujourd'hui.
Merci beaucoup Sylvain Boulouk d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des conflits sociaux, auteur de « Mensonges en gilets jaunes » aux éditions Serge Safran. Les idées claires, c'est un programme proposé par Nicolas Martin, coordonné par Aurélie Boiseau, réalisé par Luc-Jean Reynaud, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.